À ce micro, Jean-Roger Billon pour une édition spéciale en grande partie consacrée aux élections en République démocratique du Congo. Nous reviendrons sur l'actualité dans le reste du monde en fin d'édition. Le Monde aujourd'hui, nous sommes lundi 31 décembre 2018. Bonjour à tous. Après trois reports, les élections présidentielles et législatives nationales et provinciales ont bel et bien eu lieu en RDC hier. L'opposition dénonce des irrégularités et des problèmes logistiques, mais la CENI minimise les incidents. De Kinshasa, la correspondance de notre envoyé spécial, Abdourahman Dia.
Pour certains électeurs de Kinshasa, la journée a été longue. C'est le cas pour ces deux jeunes que nous avons trouvés au centre Maman Diankéba de Limété aux environs de 15 heures. Dans certains bureaux, le vote venait à peine de commencer.
On attend jusque-là, il y a toujours beaucoup de gens. Comme on est là depuis le matin, les machines sont arrivées un peu en retard, juste vers 11h, il n'y avait pas toujours des machines. En arrivant, j'ai vu des gens qui ont dit ils s'étaient fait enrôler ici et puis après, ils n'ont pas vu leur nom. Ils se sont découragés, ils sont rentrés à la maison directement.
C'est déplorable, hein. Ça me fait mal énormément. Écoutez, je suis venu à 6h, il n'y a pas de machine, je suis resté sous soleil depuis le matin, même pas manger, vous comprenez. Et enfin, on m'a dit qu'il n'y a pas de machine, je n'ai pas le droit d'y voter, ça fait mal.
Ce n'est pas le cas de Patience qui a voté assez facilement dans son centre situé dans la Gombe.
Le vote était très bien et donc rapide. Je crois que ça m'a pris 30 secondes, un truc comme ça, tellement que je connaissais déjà mes choix. Et donc voilà, je suis fier d'avoir voté utile.
Pendant que le dépouillement était en cours dans plusieurs centres, l'opposant Martin Fayoulou faisait une déclaration tard dans la soirée pour dénoncer ce qu'il appelle des dysfonctionnements dans le déroulement du scrutin.
À l'issue du monitoring que la centrale électorale de la MUCA a réalisé ou est en train de réaliser, il appelle que de nombreuses et graves irrégularités qui ont été constatées dans les déroulements des opérations de vote laissent pour le moins une idée d'un désordre électoral programmé par la CENI, complètement à la solde du pouvoir en place en vue de voler au peuple congolais sa souveraineté.
Et pour le chef de la mission d'observation électorale, Simosel, qui a déployé environ 20 000 personnes sur le terrain, l'essentiel est de trouver des solutions aux problèmes soulevés par les électeurs.
Tout va dépendre de ce que l'on va faire de ces incidents. Je crois que le vote est exprimé par la population, par les électeurs. Et il est très important que la CENI puisse préserver ces votes-là. Les incidents peuvent avoir lieu, mais le tout, c'est de pouvoir quand même assurer le bon aboutissement du processus électoral. On peut rencontrer les incidents et pouvoir les surmonter par des mesures appropriées qu'on peut prendre pour faire face à toute situation.
La CENI estime que les problèmes ont touché moins d'1% des machines et se dit donc globalement satisfaite. Abdourahman Dia, VOA Afrique, Kinshasa.
La longue attente des résultats et des premières tendances va tenir en haleine cette semaine toute la République démocratique du Congo après ce scrutin censé désigner le successeur du président Joseph Kabila. Les résultats provisoires ne doivent être proclamés que samedi prochain. D'après la Commission électorale nationale indépendante CENI, le compte à rebours a donc commencé avec le comptage manuel des voix. Objet de toutes les polémiques depuis plus d'un an, la machine à voter a connu de nombreux couacs dimanche. Christian Lusakweno, le directeur de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, donne son point de vue à l'issue de l'élection de dimanche.
Moi, je suis plutôt au niveau des chiffres parce que c'est quand même ça qui importe le plus. La Cinco vient de publier ses dernières observations. Elle parle de 17 000 rapports et couvre 78,2% du territoire. Observation effectuée jusqu'à 18 heures. Elle dit que la situation est relativement calme. Certains parlent en effet de 4 morts dans le sud Kivu, mais la situation est relativement calme. On relève, et certains de vos invités l'ont dit aussi, que la CENI a fourni des efforts. Elle dit que les bureaux de vote ont relativement bien fonctionné, mais le constat est que certains électeurs n'ont pas pu voter. Le regret, ce sont ces listes électorales qui devaient être publiées depuis très longtemps, qui ne l'ont pas été. Pourquoi? On ne sait pas. Mais particulièrement à Kinshasa, avec la CENI disait qu'elle n'allait pas supprimer des bureaux de vote. Cependant, certains électeurs ne se sont pas retrouvés dans les bureaux de vote là où ils s'étaient inscrits. Il y a eu comme un véritable désordre, jusqu'à 14 heures d'ailleurs, puisque dans la commune de Limété, certains bureaux n'ont pu commencer les opérations qu'à partir de 14 heures et que ces opérations pourraient se poursuivre jusque tard dans la nuit. Que dire de ce scrutin qu'il était très attendu, qu'il y a eu un véritable engouement, mais que certains propos tenus avant son organisation n'auraient peut-être pas dû l'être parce que on a fait beaucoup de bruit, notamment sur la machine à voter. Quand on voit que certains candidats à l'élection présidentielle, eux aussi, se sont déclarés satisfaits de cette machine, on peut se poser la question de savoir si le travail avait été fait régulièrement et avec beaucoup d'assiduité par tous les partis politiques, par la CENI et par tout le monde, si tous les problèmes qu'on n'a pas rencontrés aujourd'hui, tous les problèmes qu'on a rencontrés aujourd'hui ne seraient pas intervenus. Donc, cette élection était très attendue, cette élection a connu ou connaît encore beaucoup d'imperfections, mais place maintenant au dépouillement, puisque dans certaines communes de l'Est, mais aussi de l'Ouest, on passe au dépouillement, et que la grosse crainte, c'est est-ce que les résultats à publier ou qui seront publiés reflèteront-ils réellement la vérité des urnes ? Il faut que les témoins soient partout, il faut que les observateurs soient partout, parce que de l'avenir du Congo, l'avenir du Congo est en train de se jouer maintenant avec avec ces résultats. Il faut vraiment que celui qui sera proclamé soit celui que la majorité des Congolais aura voté.
Christian Lusakweno, patron de médias en République démocratique du Congo. Retour maintenant sur le vote d'hier. La Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, estime que le climat général du déroulement du vote a été relativement calme. Dans le Nord Kivu, un vote symbolique a eu lieu pour protester contre le report des élections à Beni et Butembo. Mais non loin de là, les populations ont massivement voté à Bukavu. Ernest Mouero a promené son micro dans les bureaux de vote.
Je suis arrivé à 6h et déjà à 6h05, tous les bureaux étaient remplis avec les gens. Et on a commencé automatiquement l'opération de vote. Et même je vis une vieillarde qui est venue, on l'a passée avant tout le monde parce que c'est parmi les consignes. Et il y a une machine qui risquait de causer problème et automatiquement on a remplacé la batterie qu'on a réservée et l'opération de vote a continué. Et je vois que tous les Congolais vraiment attendaient ce vote et c'est un droit de se choisir le nouveau président.
Moi je suis venu de Kigali pour voter parce que je tiens à ce que ces élections se passent normalement et j'ai apprécié. Il suffit seulement de savoir lire à l'ordinateur et puis vous pouvez aussi être assisté. Je demanderai vraiment à mes compatriotes de voter massivement pour les changements. Et je porte aussi nos frères et sœurs de Butembo et Beni et Yumbu qui n'ont pas pu voter. C'est un peu dommage, mais je pense qu'ils ont droit aussi de voter.
Je constate que les électrices et électeurs sont venus en masse, ce qui montre la détermination des Congolaises et Congolais à venir voter, exprimer leur choix librement. Deuxième chose, je constate qu'il y a un certain désordre. Contrairement aux années passées, je trouve que les lignes ne sont pas bien rangées. Je trouve qu'on ne respecte pas la ligne pour des personnes vivant avec handicap, les personnes de troisième âge ou des femmes qui sont enceintes. Je constate également qu'il y a une certaine tristesse qui se lise sur les faces ou les figures de certaines électrices et électeurs suite à des informations par rapport au déchargement des batteries qui sont utilisées dans les machines à voter. Et ça, c'est une inquiétude parce que si ces machines commencent à se décharger tôt les matins, qu'est-ce qu'on va observer pendant toute la journée. Je constate également que c'est très difficile de se retrouver sur les listes qu'on affiche devant les bureaux de vote parce qu'il faut faire vraiment des tours va et vient pour qu'on puisse se retrouver. Mais je trouve que malgré cela, cette difficulté, même des vieilles femmes électrices sont déterminées à se retrouver sur les listes et aller voter.
C'est mon devoir civique, aller vers les changements. Et la bonne manière d'aller vers les changements, c'est de pouvoir aller voter. Et moi, je viens de voter dans les camps des changements. Globalement, j'ai trouvé qu'elles sont bien passées. Et si on s'en tenait à la volonté des gens, au climat et qu'on a vu au centre des votes, on peut espérer. Et si on ne change pas la volonté des citoyens qui ont voté, la volonté des changements, elle sera une réalité.
Lubumbashi est la deuxième plus grande métropole de la RDC après Kinshasa. Narval Mabila y a recueilli les impressions des populations après l'accomplissement de leurs devoirs citoyens.
Voilà, sinon, dans l'ensemble, le matin, il y avait pas assez d'engouement. Et c'est vers les après-midi qu'on a vu quand même un certain nombre de personnes venir un peu dans les bureaux de vote pour voter. Mais ce qui était vraiment très remarquant, c'est que les gens avaient de sérieux problèmes pour retrouver leur nom. Il y a les autres qui ont cherché jusque tard dans la soirée. Ils n'ont pas pu trouver leur nom, donc ils n'ont pas pu voter. Ce qui a beaucoup plus inquiété plusieurs personnes qui voulaient bien remplir leur devoir civique. Mais aussi, c'est dans la soirée où certaines personnes qui sont venues en retard, qui voulaient bien aussi voter, mais malheureusement que c'était déjà à l'heure de la fermeture du bureau. Et il y a eu des petites tensions, mais déjà jusque maintenant, à l'heure à laquelle je vous parle, les témoins et les membres du bureau sont en train de déplier les bulletins de vote, et surtout plus la présidentielle. Je crois que d'ici jusqu'au petit matin, ce sera peut-être dans l'ensemble de la députation nationale et provinciale. Mais il y a quelques heures, dans un bureau de vote où on nous signale par certains témoins que la police est intervenue pour disperser même les témoins qui ont été accrédités là-bas, et on les a dispersés et la police aurait emporté tous les matériels de vote. Bon, voilà, ce sont des témoins, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé.
La population électorale estimée à quelques 40 millions d'électeurs, dont beaucoup de jeunes ont été appelés à voter. Marie Zemengui est journaliste, elle a été jointe à Mbandaka par Bagasikura.
Jusqu'ici, il faut dire que tous les bureaux de vote sont fermés en fait et ils sont en train d'être transformés au bureau de dépouillement. Mais il faudrait également signaler que la journée, il a été observé quelques cas de réclamations des électeurs dont leur nom ne sont pas apparus sur les listes affichées par la CENI. Donc c'est ce qui a créé un petit problème dans la ville de Mbandaka, mais aussi quelques agitations de quelques candidats et qui se cherchaient des voix en provoquant leurs adversaires politiques. Mais dans l'ensemble, les élections se sont déroulées normalement et à présent et à travers tous les centres de la ville de Mbandaka, on est en train de dépouiller les résultats. Si toute la population était vraiment mobilisée, toute la population était mobilisée pour aller voter, et surtout que tout le monde entendait ces élections depuis longtemps, malgré ces reports, mais la date d'aujourd'hui, c'était vraiment une date marquable, une date historique pour les peuples congolais et surtout les habitants de la province de l'Équateur qui ont pris les bureaux aujourd'hui de vote ont pris d'assaut par cette population pour accomplir justement les devoirs civiques. Ils ont voté les présidents, les députés nationaux et les députés provinciaux. Et surtout avec la machine à voter, comme c'est la première expérience. En tout cas, toute la population était mobilisée et puis tout était passé normalement.
Kinshasa a refusé toute aide logistique des Nations Unies, présente depuis 20 ans au Congo, de même que toute mission d'observation occidentale. Notre confrère Dani Kinda Amatadi nous fait dire que le scrutin s'est bien déroulé.
Oui, Matadi, c'est 365 km de Kinshasa, la capitale de la RDC. La journée s'est déroulée très très bien. Dès 6 heures du matin, le bureau de vote était ouvert et le Matadien se sont rendus très tôt matin dans leur bureau pour essayer un peu d'accomplir leur devoir civique. Ah oui, à l'heure qu'il est, c'est le dépouillement. Il y a le président du bureau et les agents électoraux, ainsi que les observateurs qui sont là et les témoins des partis politiques. Nous assistons tous les journalistes au dépouillement de nombre de bulletins. Nous avons déjà terminé pour le présidentiel et maintenant nous sommes pour la députation nationale, donc on a, provinciale, pardon. Et après la députation provinciale, viendra le tour de la députation nationale.
Le témoignage maintenant de Mbujumaï, région autrefois trouble de la RDC. Mary Kazadi, journaliste, était très tôt devant les bureaux de vote.
Nous nous sommes réveillés après la petite pluie ou la grande pluie qui a arrosé la ville jusqu'aux alentours des 4 heures. Et déjà vers 6 heures, quand moi-même je me suis rendu à certains bureaux, notamment au niveau du bureau situé dans le collège William Shepard, les gens étaient déjà là. Mais curieusement, dans certains bureaux, c'est à partir des 7 heures seulement que le premier électeur a pu voter. C'était un fait à minimiser. Tout de même, du moins quelques temps après, il faut dire vers 10 heures, il y a eu un incident malheureux qui est arrivé. C'est au site de vote de l'épée Soumaïli Loubobo, site de vote 810046, bureau de vote KC3, où après le passage du gouverneur de la province du Kasaï oriental, qui ont laissé, est président du conseil provincial de sécurisation des opérations électorales. Mais à son arrivée dans ce bureau, les gens n'ont pas digéré le fait que dans sa délégation, plus ou moins 14 personnes soient entrées dans ce bureau alors qu'ils ne s'y étaient pas fait enrôler et que ces personnes aient voté. Peut-être la disposition de des bulletins qui avaient été glissés dans l'urne ont donné l'impression que l'urne était pleine. Alors les gens se sont révoltés après son passage, ils ont attaqué le bureau. Le bureau a dû être fermé jusque dans l'après-midi et les électeurs qui juraient et tenaient que cette urne soit sortie et que le bulletin soit à brûler. Et c'était une extension du centre principal qui était installé à l'épée Soumaïli Loubobo, disons-le. Et à l'épée Soumaïli Loubobo, juste après, il y a eu une machine qu'on a prétendu qu'elle était tombée en panne, il fallait la changer, mais après insistance de la population, on a vu que la machine a continué à fonctionner jusque l'après-midi et une suspicion a été observée de ce côté-là et toute personne qui tentait de prendre des images et autres, c'est ainsi qu'un confrère de la KHRT, Urbain Kabeï Kabeï, a dû perdre même son matériel et tout son sac. Il a été victime de ces actes. Heureusement, après, la police et l'armée ont été déployés pour sécuriser le site et le vote a repris, même dans le bureau où on prétendait que la machine à voter était tombée en panne sans être touchée par quiconque. La machine a fonctionné jusque le soir.
Et Mary Kazadi, journaliste à Mbujumaï, on referme donc cette page spéciale élection avec un clin d'œil au pape. Le pape François a prié dimanche pour la République démocratique du Congo. Le souverain pontife a appelé tous les acteurs à assurer un déroulement régulier et pacifique des élections. Vous écoutez VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, dans quelques instants, le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde. Jean-Roger Billon à ce micro. Des combats meurtriers entre Arabes venus de Libye et Opaïeurs ont eu lieu jeudi et samedi à l'extrême nord du Tchad, dans la zone aurifère de Kouri-Bougoudi. Aucun bilan humain n'a été donné de sources sécuritaires, mais la Convention tchadienne des droits de l'homme, CTDH, parle de plus de 30 morts et de plus de 200 blessés parmi les Opaïeurs. La justice égyptienne a transformé dimanche en peine ferme les 2 ans de prison avec sursis auxquels avait été condamné une militante pour la défense des droits humains connue pour avoir dénoncé le harcèlement sexuel en Égypte. Amal Fati, c'est son nom, âgé de 34 ans, avait été arrêtée en mai après avoir partagé sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle elle avait critiqué le manque d'action des autorités face au harcèlement sexuel que subissent les Égyptiennes. Madame Fati a également été condamnée à payer une amende de 10 000 livres égyptiennes, soit 490 euros. 45 migrants clandestins ont été secourus par les gardes-côtes au large de l'île de Kerkena dans l'est de la Tunisie, a indiqué dimanche la garde nationale tunisienne qui n'a pas fait état de victimes. Les personnes secourues, pour la plupart des ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, sont en bonne santé, a indiqué le porte-parole de la garde nationale tunisienne, mentionnant la présence de deux femmes enceintes à bord. La marine maltaise a dit avoir secouru 69 migrants à bord d'une barque en bois, tandis que 49 autres récupérés ces derniers jours par l'ONG des ONG allemandes attendaient toujours un port pour débarquer. Les migrants secourus dimanche ont appelé à l'aide alors qu'ils étaient en perdition sur une barque en bois à 117 miles nautiques au sud de Malte. Et les ministres de l'Intérieur britannique et français se sont mis d'accord dimanche pour accroître la collaboration bilatérale face aux tentatives de traversée de la Manche par des migrants à bord de petites embarcations qui se sont multipliées ces dernières semaines. Ce plan consiste en un accroissement du nombre de patrouilles de surveillance, des actions pour démanteler les gangs de trafiquants et la sensibilisation des migrants aux dangers que représente la traversée de la Manche.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retour sur le continent, plus précisément au Mali, pour parler du processus de paix. Les parties maliennes en conclave à Ségou pour la mise en œuvre de l'accord de paix. Pendant 3 jours, la cinquantaine de participants vont définir les programmes d'activité prioritaires pour 2019. Kassine Traoré, notre correspondant à Bamako, nous en dit plus.
Ils sont des représentants de la CEMA, de la plateforme et les autres signataires inclusifs de l'accord à prendre part à cet atelier aux côtés du gouvernement du Mali. Une initiative soutenue par le partenaire allemand GIZ, Ablaye Sidibé, représentant de GIZ.
Depuis 2013, la GIZ accompagne le gouvernement du Mali dans ses efforts de paix et de réconciliation. Son projet d'appui à la stabilisation et à la paix, qui entame une nouvelle phase à partir de janvier 2019, souhaite contribuer à la mise en œuvre du processus inclusif de stabilisation et de paix, tenant compte surtout des besoins définis dans l'accord de paix.
Une initiative du gouvernement malien saluée à sa juste valeur par les parties signataires. Moussa Ag Atayer, porte-parole de la CEMA.
La CEMA salue l'initiative au moment où les parties à l'accord sont engagées. À nos yeux, une équipe est sacrée, comme les rapports humains également sont sacrés. C'est pourquoi nous pensons que l'occasion qui nous réunit est apparue au bon moment pour nous permettre de nous retrouver, pour pouvoir se parler, échanger et raffermir davantage nos liens de travail et nos liens de fraternité.
Maître Haruna Touré, porte-parole de la plateforme.
Et c'est donc une immense joie que d'avoir cette belle occasion entre nous, frères maliens, et entre nous, c'est ma plateforme, pour apprendre ensemble à comment apporter les dividendes si attendus à nos populations maliennes, bien entendu en lien avec la mise en œuvre de l'accord pour la paix.
Telle est la principale recommandation de l'atelier de Ségou, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et maintenant, la minute écho avec Michel Joseph.
Au Kenya, les exportations horticoles ont généré 127,7 milliards de shillings sur les 10 premiers mois de 2018. Ce chiffre marque un bond de 33% par rapport à la période correspondante un an plus tôt, rapporte Business Daily Africa. En Tunisie, Ami Assurance va émettre des titres participatifs de 35 milliards de dinars tunisiens. L'émission sans appel public à l'épargne participatif sera réservé à son principal actionnaire, en l'occurrence la Banque Nationale Agricole. Ami Assurance avait décidé en mars dernier d'augmenter les fonds propres de 70 milliards de dinars tunisiens. Cette augmentation sera portée par les actionnaires de la Banque Mondiale Agricole, HBG Holding, l'Union Générale Tunisienne du Travail et la Centrale Syndicale Tunisienne. En 2018, le cuivre, l'aluminium et le nickel ont subi de plein fouet la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Au marché des métaux de Londres, le prix du cuivre a cédé 16,9%, l'aluminium 18,1% et le nickel 13,4%. Les experts estiment que l'élément clé de cette faiblesse des cours, qui devrait se poursuivre en 2019, est la crainte d'un affaiblissement de la croissance des économies américaines et chinoises. Face à cette faiblesse de la demande, les métaux souffrent en outre d'une offre globalement abondante.
À présent, la page de sport avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Jean-Rouget et bonjour à tous.
Le marathon se poursuit pour les footballeurs anglais, deuxième match en trois jours, mais ça n'empêche pas Liverpool d'être souverain.
Oui, le Red, qui semble galvanisé par cette période des fêtes, Arsenal en a fait les frais à Anfield en s'inclinant 5-1 pour le choc de la 20e journée de la Première Ligue. Nouvelle démonstration de force donc pour Liverpool, qui reste invaincu et qui prend 7 points d'avance en tête du classement sur Manchester City, vainqueur 3-1 de Southampton. Tottenham battu 3-1 à domicile par Wolverhampton, retrograde à la 3e place. Pour le reste, Chelsea s'impose à Crystal Palace et garde sa 4e place. Et puis, notons le succès de Manchester United 4-1 devant Bournemouth pour signer au passage sa 3e victoire en 3 matchs.
Élisée, on continue de jouer aussi en Afrique en cette période de fête.
Effectivement, Jean Roger, et on prend la direction de la Tunisie avec un match en retard de la 10e journée de la Ligue 1. Et le club africain s'est imposé au stade d'El Menza face à l'étoile sportive de Metlaoui 3-1. Ce succès permet aux Rouges Blancs de prendre la 7e place du classement à un point de l'étoile sportive du Sahel. Au Togo, le championnat était à sa 12e journée. Dito, battu 1-0 par Maranatha, perd sa 2e place aux dépens de Gomido de Palimé, vainqueur de l'Est Togo Port 3-1. Pour le reste, notons entre autres la victoire 3-1 d'Asco du Kara devant Sarah et le nul 0-0 entre Ange de Noche et Semasi de Sogodé.
9e journée au Bénin et rien n'arrête les Buffs du Borgou.
Le club de Parakou, vainqueur de l'Union sportive de Kaké 2-0, consolide sa première place avec 20 points. Aspak et Panthère de Djougou, victorieux respectivement du SAE 2-1 et UPIB ONM 3-0, sont désormais deuxièmes avec 16 points chacun. Dans le derby de Porto-Novo, Assos a eu raison des Dragons 2-1. Même score à Boycon en faveur de l'AS Tonnet devant Soleil. Bonne opération de Dynamo d'Amoumé, vainqueur 1-0 à l'AS Police. Et puis, Énergie n'y arrive plus. Les électriciens, qui n'ont plus gagné depuis 3 journées, ont encore chuté à Dangbo devant Asvo, score 1-0. C'est le même score que Ayema a infligé à la jeunesse athlétique de Cotonou.
Au Cameroun, le canon sportif de Yaoundé a un nouveau président du conseil d'administration.
Il s'agit de Pierre Omé Linde. Il a été élu lors d'une assemblée générale il y a quelques années. Il occupait le poste de vice-président avant de jeter l'éponge à cause des querelles internes. Cette fois, l'ancien joueur de l'Inter de Milan peut compter sur ses anciens partenaires en équipe nationale, Aliou Bouka, François Omambik et Raymond Kala, pour atteindre ses objectifs en première division la saison prochaine si le championnat passe de 18 à 20 clubs. Et puis, du basketball pour finir, la NBA avec vous Jean-Roger Bion, les résultats de la nuit.
Oui, oui, Élisée, Detroit battu par Orlando 107-109, Minnesota défait Miami 113-104, Toronto l'a emporté face à Chicago 95-89, Oklahoma City s'est incliné devant Dallas 103-105, Philadelphie a perdu devant Portland 95-129 et les Lakers de Los Angeles ont fait la peau à Sacramento 121-124.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, ce sera tout pour cette édition de ce lundi 31 décembre 2018. Merci de l'avoir suivi. À la console, David Magnus, Michel Joseph pour la réalisation et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Jean-Roger Billon à ce micro. Nous émettons de Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique et bonne année.